Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Au fil des pages avec Philippe Marini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sénateur-maire de l'Oise, maire de Compiègne. Vous êtes également, et ce n'est pas le moindre des postes, rapporteur général de la Commission des Finances, ce qui vous donne, bien sûr, sur notre pays, un regard, d'ailleurs on va en parler, un regard à la fois sur ses finances, la façon dont notre État est géré, vous l'abordez aussi, les solutions que l'on peut trouver aux turpitudes bien françaises, veillées d'armes, terme un peu combatif peut-être, et vous nous direz pourquoi vous l'envisagez sous cet angle. La rupture, c'est un terme qui a fait beaucoup parler de lui. Rupture, c'est un terme de Nicolas Sarkozy, et votre ouvrage lui-même, édité aux éditions Ligne de Repère, est préfacé par Nicolas Sarkozy. C'est un ouvrage qui se présente sous la forme d'un entretien avec le journaliste Sylvain Attal. Donc, veillée d'armes, propos pour la rupture. Je cite ce propos, justement, pour la rupture. 2007 sera un vrai choc entre les idées et les personnalités des deux principaux candidats. Il faut le souhaiter, rien n'est pire qu'une démocratie anesthésiée. Vous aimez l'affrontement, hein ?
Cet ouvrage est né d'un contexte, celui de la législature finissante et même celui d'une période politique finissante, personnalisée notamment par l'actuel président de la République. Et de façon très régulière, pendant 9 mois à peu près, le temps d'une gestation, j'ai conversé avec Sylvain Attal une fois par semaine, 1 heure, 2 heures par semaine. Nous avons abordé l'actualité, l'éphéméride de ce moment-là, à la charnière des années 2005-2006 et jusqu'à l'automne de 2006. Donc, dans la période où le contexte de l'élection présidentielle était en train de se créer, et nous avons donc cheminé avec les événements de ce temps-là. C'est pour cela que l'ouvrage s'appelle « Veillée d'armes ». Donc, tout est calme, les troupes sont en train de se constituer, pour le meilleur ou pour le pire. C'est le bivouac, on converse, c'est un peu un clin d'œil à certains épisodes de l'histoire. Voilà, donc quel est le contexte, l'ambition de cet ouvrage, c'est simplement de réfléchir à la lumière d'une actualité et au moment où tout peut se renverser.
Alors, tout peut se renverser. On pense aussi, alors donc, évidemment, à ce terme de rupture. J'aimerais commencer par ce terme, précisément, qui a suscité quand même pas mal de, pas forcément de critiques, ou alors des critiques positives et des critiques négatives, d'ailleurs. Nicolas Sarkozy, lui-même, a essayé de le tempérer avec la rupture tranquille. Est-ce qu'on a vraiment besoin de rupture ou de continuité ?
Alors, qui aujourd'hui, dans l'élection présidentielle, se présente avec un programme de continuité ? C'est sans doute fantastiquement injuste, je le dis d'ailleurs quelque part, car à regarder les chiffres dans leur froideur, à apprécier ce qui a été fait dans cette législature qui se termine, on doit dire qu'elle n'a pas été inutile et, pour reprendre l'expression bien connue, qu'elle est globalement positive. Elle a permis d'engranger de réels progrès. Néanmoins, qui aujourd'hui vient devant les électrices et les électeurs avec un langage de continuité ? Personne. Et c'est l'intuition, à mon avis tout à fait remarquable, bien une intuition, à vrai dire, déjà bien réfléchie, de Nicolas Sarkozy il y a déjà longtemps, qui a introduit cette thématique de la rupture, avec ce constat que les Françaises et les Français, à chaque échéance, pratiquent l'alternance, et que si l'on se présente seulement comme le dauphin officiel revêtu des habits de la légitimité institutionnelle, on est voué à l'échec, et avec un langage, avec des propositions qui ne seront même pas audibles.
continuité, vous dites personne ne se réclame de la continuité. Vous avez des mots un petit peu durs, peut-être à l'endroit de Jacques Chirac. Vous dites par exemple, à la question qui vous est posée, Jacques Chirac est très sensible aux événements, avec une grande capacité d'adaptation aux circonstances. Sans doute est-ce un bon management pour des périodes où il faut gérer un système qui poursuit normalement son existence. Et vous ajoutez, en d'autres termes, pour des eaux économiques et sociétales pas trop agitées. Mais lorsqu'on aborde des périodes où c'est la discontinuité qui prévaut, cette attitude très plastique, très malléable, ne représente plus la solution et la bonne approche des problèmes.
Je le crois profondément. J'ai beaucoup de respect pour la personne du président de la République. J'ai fait, comme on s'en doute, de nombreuses campagnes pour lui. Je l'ai souvent rencontré. Mais je crois profondément que nous sommes dans une phase de transition entre deux temps politiques. Un cycle politique se ferme, un autre s'ouvre. Il y a eu un cycle Mitterrando-Chiracien, avec de grandes oppositions entre eux, mais finalement une certaine correspondance entre eux, nous entrons dans un autre temps politique. Et c'est très difficile d'entrer dans un autre temps politique. Donc, du côté de la majorité parlementaire actuelle, de sérieuses concurrences, de sérieux craquements ont précédé l'émergence de Nicolas Sarkozy comme candidat aujourd'hui très mobilisateur et très fédérateur. Du côté du Parti socialiste, la solution a semblé être trouvée par le recours aux militants eux-mêmes et par cette campagne interne qui a été un grand succès sur le thème du renouvellement. Question étant de savoir si la pré-candidature a permis un résultat qui assure la crédibilité du candidat. La candidate tient-elle les promesses très grandes qui étaient celles de la pré-candidate? Et enfin le centre, qui, lors de la veillée d'armes, n'apparaissait guère, qui lui-même, de façon très étrange, alors que le centre, par principe, par définition, c'est la modération, s'affiche par François Bayrou comme l'anti-système. Donc partout des craquements pour affronter ce nouveau cycle.
Ce nouveau cycle, puisque vous essayez d'en dessiner un peu les contours, est-ce qu'on peut imaginer la façon de gouverner des futurs présidents? Est-ce que ça va changer, quelle que soit l'étiquette politique, que vous soyez de l'UMP, du PS ou de l'UDF, il faudra de toute façon gouverner différemment?
C'est
une nouvelle manière de faire de la politique?
C'est pas seulement une manière, c'est surtout une question de fond. Et c'est vrai que la campagne, que les médias, ceux qui n'ont pas le temps, nous renvoient des images très simplificatrices, de pures images. En réalité, il faut s'interroger. L'adaptation de l'État, les fonctions de l'État, la réforme de l'État, le devenir de l'Europe, les structures industrielles, les pouvoirs de décision, la mondialisation, les délocalisations, les justes réponses entre le marché et la volonté, il faut les trouver. On ne les a pas encore réellement trouvées. On n'a pas nécessairement toujours fait de mauvaises choses de 2002 à 2007, mais il faut bien reconnaître que le pilotage à court terme ne peut pas être une réponse à des angoisses, à des préoccupations d'une société qui, plus ou moins confusément, se rend compte que la période est nouvelle et qu'il faut se remettre en cause, qu'il faut être compétitif sans nécessairement être prêt à en payer le prix.
Encore une question, Philippe Marini, sur la politique telle que les candidats aujourd'hui jouent ce spectacle, si je puis dire. Vous avez dit, justement, François Bayrou n'apparaissait pas lors de cette veillée d'armes. Enfin, il apparaît juste depuis quelque temps. Est-ce qu'il n'est pas le signe que les Français en sont peut-être un peu las de ce clivage gauche-droite et qu'il est temps de prendre le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite et de trouver une sorte de compromis sur ce fameux centre, ce grand centre qui n'existe pas?
Il existe tellement peu que l'élection étant à deux tours, si jamais les rêves de M. Bayrou devaient devenir réalité, il serait soit dans la position du candidat des droites et du centre face à Ségolène Royal, ou bien le candidat des gauches et du centre face à Nicolas Sarkozy. Donc, le ni droite ni gauche, c'est un positionnement de premier tour, c'est une autre forme de rupture, en quelque sorte. Mais ceci prend fin au soir du premier tour. Et c'est la logique binaire qui reprend, Il n'en est pas d'autre possible dans les structures socio-politiques de notre pays. Donc, habile tactique, habile stratégie de rupture qui, en réalité, si l'on regarde les précédents, ne peut se référer qu'à deux types d'épisodes. La troisième force sous la quatrième République, en excluant d'un côté les gaullistes et de l'autre côté les communistes, donc la troisième force qui a géré dans l'instabilité les conflits de partis et de personnes l'essentiel du temps de la quatrième République et qui faisait un peu du ni droite ni gauche et droite et gauche. Et par ailleurs, la vision de la France unie de François Mitterrand post-1988, quand il avait attiré quelques rares personnalités du centre, avec, pour le mettre mieux en péril, Michel Rocard comme Premier ministre. Donc voilà les deux seules références que notre pays peut trouver depuis 1945 dans le style du « ni droite ni gauche ». Je n'y mets pas la cohabitation, qui est une forme de neutralisation respective des pouvoirs, dont Raymond Barre, le premier, un homme du centre, mais très gaullien, a dit par avance tout le mal qu'il fallait en dire.
Est-ce que vous seriez partisan d'une réforme, justement, vous en parlez, régime parlementaire, régime présidentiel, est-ce que dans la France d'aujourd'hui, des réformes de ce point de vue s'imposeraient ? Est-ce que le poids du Parlement mériterait d'être renforcé, j'imagine, peut-être, non ?
Notre régime, notre système institutionnel, il est trop compliqué, paradoxal. Car si nous regardons autour de nous, il y a deux grands modèles entre lesquels se répartissent les démocraties pluralistes. Le modèle présidentiel, qui va au bout de la séparation des pouvoirs et qui organise l'indépendance respective de l'exécutif et du Parlement, et par ailleurs, le régime parlementaire modernisé, rationalisé, tel que le pratique la Grande-Bretagne ou l'Allemagne fédérale, mais au même titre que l'Espagne et bien d'autres États, notamment européens. En France, avec les institutions de 1958 profondément corrigées et transformées en 1962, nous avons l'exécutif à deux têtes. L'exécutif à deux têtes n'existe réellement nulle part ailleurs. J'exagère un peu en disant cela. Il y a au moins deux pays d'Europe orientale qui ont des institutions proches de celles de la Ve République, c'est la Pologne et la Roumanie, avec des présidents élus au suffrage universel dotés de compétences fortes, donc pas purement symboliques, comme les présidents de la Finlande ou de l'Irlande ou de l'Autriche, eux-mêmes élus au suffrage universel.
Ou de l'Allemagne.
Non, il est élu par les parlementaires.
Exact, mais avec des compétences réduites.
Avec des compétences symboliques, chef d'État symbolique. Mais même chose en Irlande, en Finlande, en Autriche, malgré l'élection au suffrage universel. Donc, j'y reviens, Pologne, Roumanie, comme la France, ont l'exécutif à deux têtes, avec un Premier ministre qui exerce des compétences constitutionnelles réelles, substantielles, et un président de la République qui a un domaine réservé et qui peut également intervenir dans la vie politique intérieure avec un effet de levier très puissant. Alors, est-ce que ce modèle que les Polonais, anecdotiquement, ont su concilier ou modérer par le choix actuel de deux frères jumeaux à la présidence et au poste de Premier ministre, est-ce que ce modèle est réellement...
Cas assez rare.
Voilà, c'est vraiment l'hypothèse limite, mais ça assure en tout cas le fonctionnement harmonieux entre les deux têtes de l'exécutif. Est-ce que ce modèle est réellement un bon modèle ? Bon, prenons l'hypothèse de l'élection de tel ou tel candidat à la présidence de la République, surtout s'il ne pouvait pas s'appuyer sur une majorité compacte et fidèle. Première décision à prendre, choisir le Premier ministre. Premier ministre, responsable de conduire la politique du gouvernement, qui est plus qu'un coordinateur technique, qui est un vrai animateur politique. Comment, au quotidien, quand les difficultés seront venues, 3 mois après, 6 mois après, l'automne étant passé par là, avec son cortège de revendications, les questions de réforme ayant plus ou moins avancé ici ou là, des opérations financières, par exemple, ayant menacé l'indépendance de tel ou tel grand groupe français. Que vont devenir les relations entre les deux têtes de l'exécutif, même lorsque ces deux têtes sont issues du même corps politique? Il peut se trouver des problèmes de concurrence interne, des entourages qui ne s'entendent pas, un système administratif qui se coince. Alors, a fortiori. Bon, que faut-il faire?
Il faut en supprimer une?
Dans l'idéal, si je dois donner mon avis le plus sincère, et je ne suis pas le seul à penser comme ça, il faudrait pratiquer le système parlementaire rationalisé, tous les 5 ans, une élection, un leader de la force politique qui gagne, qui devient Premier ministre, qui constitue son gouvernement et qui est soutenu par une majorité solide pour 5 ans pour gouverner. Bon, mais ça voudrait dire que l'élection présidentielle au suffrage universel ne fait plus partie de notre univers et c'est impensable. C'est impensable. Bon, alors, que faut-il faire? À mon avis, il est bon que le président se rapproche du Parlement, puisse communiquer directement avec le Parlement, qu'il ne soit plus interdit d'hémicycle parlementaire, que tout en ménageant une place de vrai chef d'état-major pour le Premier ministre, néanmoins, il prenne bien toute la responsabilité politique de l'essentiel. Moi, je crois que c'est l'évolution à laquelle le quinquennat nous appelle. Je n'ai pas personnellement voté le quinquennat. Je ne pense pas que ce soit une bonne réforme. Mais, à mon sens, c'est plutôt vers un effacement du Premier ministre que l'on va, et compte tenu du caractère, du tempérament, du charisme qu'a le candidat que je soutiens et qu'est Nicolas Sarkozy, je pense que tout naturellement, s'il est élu, c'est à ça qu'on viendra.
À tout de suite, Philippe Marini.
Canal Academy rend hommage aux grandes figures historiques de l'Institut de France. Jean-François Revel, de l'Académie française, décédé en 2006. Jacques Bainville, également journaliste et également immortel de la française, mais d'une autre génération. Les frères Rénac, grandes figures de la Troisième République, dont l'un d'entre eux, Salomon, était membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. François Arago, scientifique du XIXe siècle, membre de l'Académie des sciences dès l'âge de 23 ans. Charles Trenet et Delacroix, tous deux membres de l'Académie des beaux-arts. Roger Arnaldez, philosophe de la pensée orientale médiévale, ainsi que beaucoup d'autres figures de l'histoire des académies qui, je vous le rappelle, remontent jusqu'au XVIIe siècle.
Au fil des pages, avec Veillée d'armes, propos pour la rupture, c'est Philippe Marini qui signe cet essai aux éditions Ligne de repère, entretien avec Sylvain Attal et préfacé par Nicolas Sarkozy. Nous nous sommes quelque peu attardés sur les questions institutionnelles, mais avec beaucoup d'intérêt, puisque vous nous avez souligné que le président devait en quelque sorte, je résume un peu votre esprit, aller au charbon directement, puisque c'est lui qui a été élu par les Français, donc il doit se rapprocher du Parlement, et le rôle du Premier ministre s'effacerait quelque peu. Avec peut-être ce bémol, Philippe Marini, c'est que le président jouit d'une forme de... jouit d'une stature qui le dégage de la gestion politicienne du quotidien. Il se réserve la politique étrangère, les grandes questions de défense. Il a une stature monarchique et vous le feriez descendre de ce piédestal monarchique.
Oui, je crois que c'est vraiment ce que le temps présent conduit à faire. D'une part, dans la symbolique des institutions, dans l'apparence, on demande toujours plus de simplicité. Dans l'expression, on demande un langage plus direct, une prise de responsabilité plus directe, moins de circonlocutions, moins de propos pesés, sous-pesés, aseptisés. Lorsqu'un discours est écrit et sort de tous les filtres de l'administration, il peut se produire qu'il n'ait plus aucun contenu, de telle sorte que le porte-parole ne s'exprime plus que sur ce qui est non conflictuel, évident, ne transgresse aucune limite, donc est privé de tout contenu, de toute vertu de communication. Je n'aurais pas la cruauté de citer des prestations de cette nature, mais elles sont légion. Or, ce dont on a...
On sent que ça vous démange.
Oui, bien sûr, mais ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est véritablement d'un engagement, qui soit un engagement total. C'est pas de sous-peser des combinaisons, parce que le temps presse. Nous sommes soumis à une comparaison de chaque instant avec d'autres. Nous avons de grandes vertus, un grand potentiel, à mon sens, une grande capacité de redéploiement et d'énergie, mais le temps presse. Si l'on ne veut pas être le conservatoire des plus beaux monuments de l'Europe et la terre d'accueil du tourisme, ayant perdu l'essentiel du pouvoir économique, il faut se presser.
Le temps presse, Philippe Marini, c'est vous qui le dites. J'évoque quelque peu les sujets que vous abordez tout au long de cet essai. Vous parlez de notre société, d'abord, qui est en plein doute. Vous évoquez les banlieues, une crise d'identité avec un point d'interrogation, la crise du CPE, la question de l'enseignement. Vous parlez de Jacques Chirac, on en a dit un mot tout à l'heure, justement, ce que vous pensiez de ce management. Qu'est-ce que la rupture ? Vous l'évoquez ensuite. Un grand soir fiscal, j'aimerais qu'on s'attarde sur ce point puisque vous êtes rapporteur général de la Commission des Finances. Grand soir fiscal, l'expression est forte. Alors, où va la rupture ? Quel serait le sens de la rupture sur ce point ?
La fiscalité, c'est un reflet de la société. La fiscalité, elle est porteuse des valeurs dans lesquelles on croit. Et aujourd'hui, dans l'ouverture de ce nouveau cycle, il faut très sérieusement s'interroger sur l'équilibre entre deux notions essentielles. L'efficacité, l'équité. Comment rester fidèle aux orientations et aux principes de notre République ? Fidèle en quelque sorte à notre identité, et je crois qu'il faudra revenir sur ce concept d'identité.
Capital, on va en parler.
C'est capital. Mais en même temps, il faut viser l'efficacité. Alors, pour être tout à fait simple, lorsque l'on fait des comparaisons internationales, lorsqu'on regarde comment fonctionnent les systèmes de prélèvements obligatoires. Prélèvements obligatoires, ce ne sont pas seulement les impôts au sens strict, ceux-là englobe aussi les cotisations sociales que l'on est contraint de verser pour faire fonctionner les systèmes de solidarité, les systèmes de sécurité sociale. Quand on regarde tout ça, et qu'on regarde quelles sont les valeurs économiques qui sont frappées par les impôts et prélèvements, en d'autres termes, les assiettes de ces contributions, quelles sont les catégories ? Il n'en existe pas beaucoup. Il existe le travail, il existe le capital sous ses différentes formes, immobilière ou mobilière, il existe les transactions, les flux, la consommation. Ce sont les trois grandes familles d'assiettes. On peut raffiner, mais on devra finalement en revenir à ce classement principal. La France a fait le choix, ou le non-choix, c'est-à-dire le choix implicite, au fur et à mesure du temps, sur une génération, de pénaliser le travail. Et au sein de l'OCDE, nous le voyons bien quand nous lisons les statistiques qui montrent que le taux de prélèvement sur le travail est sensiblement plus élevé que la moyenne. Ceci se reflète tout naturellement dans une situation socio-économique caractérisée par un chômage élevé. Donc aujourd'hui, pour une stratégie de prélèvements obligatoires reflétant les valeurs de cette nouvelle période du cycle politique, bien entendu, le thème numéro un et la priorité numéro un, c'est de prélever moins sur le travail. Prélever moins sur le travail, se rendre compte que les compétences, la matière grise, plus on s'élève dans le niveau des qualifications, plus c'est mobile. Et que par ailleurs, le capital, lui aussi, dans ce monde aux frontières ouvertes, est extrêmement mobile. La compétitivité est donc nécessairement le maître mot d'une nouvelle stratégie fiscale en ce domaine. Beaucoup à faire.
Y compris au sein de l'Europe, alors. Compétitivité, voire concurrence entre les fiscalités européennes.
Nous sommes dans une phase de concurrence. L'Europe est inorganisée, et je dirais dans l'incapacité de s'organiser en termes de convergence fiscale, et même l'Europe de la zone euro, car ce sont des matières traitées à l'unanimité. Et bien entendu, pour qu'un État, un Parlement, un gouvernement sacrifie la pleine disposition de leurs droits fiscaux, il faut presque un cataclysme politique. La seule démarche qui est actuellement en cours au sein de l'Union européenne, une bonne démarche, est une démarche d'harmonisation de l'assiette, c'est-à-dire du mode de calcul de l'impôt sur les sociétés. Et encore faut-il dire qu'elle a été proposée depuis plusieurs années, qu'elle n'a débouché sur aucune vraie décision de méthode, et que le jour où elle aboutira, même si l'on s'exonère de l'unanimité qui, même pour ça, pose problème, ce sera une démarche de méthode et pas une démarche de convergence des taux.
Donc l'Europe est pour le moins balbutiante sur ce point. Si on ne taxe pas le travail, ou beaucoup moins le travail, vous allez taxer ailleurs ?
Alors, bien entendu, l'État assume des missions collectives qui doivent être financées. Les missions de l'État, les missions de la sécurité sociale, la solidarité dans une société qui vieillit, ce sont des dépenses croissantes. On peut faire des compensations, dépenser moins d'un côté, dépenser mieux, réformer, rectifier, améliorer le management public. Il n'en reste pas moins qu'il y a au moins du côté des régimes de maladie, du côté des régimes de vieillesse et de dépendance, des besoins qui sont structurellement croissants pour des raisons à la fois démographiques et technologiques. Donc il faut trouver des ressources pour accompagner ce développement et financer ces charges croissantes. Je crois beaucoup, pour ma part, à un exercice qui n'est pas l'alpha et l'oméga de tout, mais qui au moins a une force d'entraînement considérable sur tout le paysage fiscal, et qui est l'opération dite de TVA sociale. Majorer l'impôt de consommation pour réduire un peu les importations, faire payer aussi bien les produits importés que les produits fabriqués nationalement et réduire à due concurrence les cotisations sociales prélevées sur les entreprises.
Alors Philippe Marini, peut-être d'autres points que vous abordez dans cet ouvrage. Si quand même encore un aspect, si vous le voulez bien, la Suède a un taux de prélèvement obligatoire extrêmement élevé et une efficacité qu'on ne remet pas en cause. Il n'y a pas de symétrie entre la pression fiscale et l'efficacité économique ?
Chaque État a son modèle. Il y a une compétition entre les modèles. Et nos vieux États européens ont des identités bien marquées. Mais aussi bien en matière d'organisation socio-économique que dans le domaine politique, dans le domaine des mœurs, dans le domaine de la pensée. Et la Suède, c'est une personnalité très spécifique. Au demeurant, quand on va voir de plus près, la Suède, c'est ni le Danemark, ni la Norvège, ni la Finlande. Nous, Français, on regarde, on dit c'est la Scandinavie. Bon, vrai en gros, faux dans le détail, naturellement, et même assez profondément faux. La Suède est un pays qui est à la fois très socialiste et très libéral. Absolument étonnant. C'est un pays où les groupes familiaux qui ont fait l'industrie, demeurent extrêmement puissants. Et où, par exemple, avec 10% du capital, on peut contrôler une large majorité des droits de vote d'une société. C'est un pays qui a donné naissance à de très grandes entreprises et qui a su pratiquer le compromis historique entre ses forces très profondément capitalistes et la représentation sociale, en règle générale, au sein d'une très grande confédération partenaire des pouvoirs publics. Mais la Suède est un État qui présente toutes ses caractéristiques à la fois, avec l'inquisition fiscale. Le fisc peut savoir quasi directement ce qui se passe sur votre compte en banque, et en même temps, de très grandes fortunes dont on ne sait pas très bien si elles restent localisées, si elles sont délocalisées. En tout cas, beaucoup de sièges sociaux à Stockholm, de sociétés capitalistes et un pays qui est presque un paradis pour les juristes.
Philippe Marini, on marque une seconde pause.
«
Jean d'Ormesson sur Canal Académie, immortel depuis le 18 octobre 1973, date de son élection à l'Académie française, Jean d'O, comme l'appellent familièrement ses lecteurs, n'a pas attendu cette date pour devenir un écrivain célèbre. Retrouvez Jean d'Ormesson sur Canal Académie avec Elisabeth Antebi dans notre émission En habit vert.
Veillée d'armes, propos pour la rupture, préfacé par Nicolas Sarkozy. C'est un ouvrage de Philippe Marini qui s'entretient avec le journaliste Sylvain Attal aux éditions Ligne de Repère dans la collection Opinion. Philippe Marini, je rappelle que vous êtes sénateur de l'Oise, maire de Compiègne et que vous êtes rapporteur général de la Commission des Finances, que vous avez également exercé au CEA en tant que directeur financier, le commissariat de l'énergie atomique. C'était entre 79 et 89.
Voilà, c'est déjà assez ancien, mais très belle période.
Une belle expérience qui vous donne en fait une assise aussi bien dans le monde, j'allais dire, de l'entreprise et puis dans le monde de la politique. Vous avez un peu vu tous les aspects des choses, tous les aspects de la vie publique, enfin de la vie de l'entreprise.
Alors, j'ai eu en effet une vie avant le Parlement. Je garde, si j'ose dire, un peu de vie réelle, c'est-à-dire de présence dans quelques activités économiques évidemment compatibles avec mes mandats. Et je crois que c'est essentiel, car le personnel politique est trop isolé et il est trop profondément imprégné par la seule sphère publique ou administrative. Et comme vous l'avez rappelé, j'ai eu la chance de vivre mes premières années de vraie responsabilité professionnelle dans un grand organisme scientifique, où d'ailleurs j'ai rencontré un certain nombre de membres de l'Institut. De très grands personnages, Claude Fréjac, Robert Dautray, Jules Horowitz, qui ont été des personnalités qui m'ont fasciné. Ensuite, je suis passé dans le privé, dans la banque d'affaires privée, et puis j'ai pris la personnalité que je respectais beaucoup dans l'Oise, qui avait été sénateur pendant 44 ans, et j'ai été élu à sa suite au Sénat en 92, alors que j'étais encore dirigeant de banque. Mais ces allers-retours, une expérience d'élu local aussi, bon, 30 ans de conseil municipal depuis le début de ce mois de mars. En effet, je dirais que ça éduque et ça relativise beaucoup de choses et ça montre qu'il n'y a pas de grands sujets et de petits sujets.
Vous êtes inspecteur des finances, mais vous n'êtes pas resté dans ce corps d'élite.
4 ans, la période de la tournée, j'ai fait des contrôles, des vérifications. Bon, je reste...
Sans plus, on a l'impression.
Inspection des finances, c'est... En effet, un corps, mais c'est une addition d'individualité. On est très individualiste. On n'est pas à l'identique des corps juridictionnels que sont le Conseil d'État, la Cour des comptes, qui ont un vécu collégial. Nous n'avons pas vraiment de vécu collégial. Alors, il y a ceux qui sont dans l'activité auprès du pouvoir politique, les membres des cabinets ministériels, les directeurs des grandes administrations. Il y a ceux qui font le choix, maintenant ils sont de plus en plus nombreux, des activités privées et notamment à l'international, donc ils disparaissent de cette sphère franco-française, mais en conservant naturellement leur gène. Et puis il y a ceux rares qui ont franchi en quelque sorte le miroir et qui sont passés du côté de la fonction politique avec ses responsabilités, ses risques, ses charmes et ses mirages. Bon. Jean-Pierre Fourcade, Alain Juppé, voilà, votre serviteur. C'est une démarche relativement rare, effectivement, au sein de ce corps.
Je reviens à notre discussion. Vous parliez du modèle, de différents modèles qui existent en Europe, en particulier de la Suède et de ce modèle si particulier dont on aurait tort forcément de vouloir s'inspirer tant les correspondances sont peut-être fausses dans ce domaine. Vous parlez également de l'euro. L'euro est-il durable ? Et vous dites carrément, je pense que la soutenabilité à long terme de l'euro n'est absolument pas une certitude. L'euro repose sur une crédibilité. L'euro doit traduire l'intégration d'un espace économique. Et si dans cet espace des politiques trop contrastées sont menées, eh bien, si vous en ajoutez, alors oui, l'euro peut très bien connaître des crises comme nos anciennes monnaies en ont connu. On pourrait sortir de l'euro ?
Sortir de l'euro, je ne sais pas, mais on pourrait voir l'euro attaqué. Si toutes ces circonstances se produisent, bon, c'est un peu une vue de l'esprit ou une démonstration par l'absurde. Mais rien n'est évident dans ce monde. L'Europe est bancale. On s'en est bien aperçu dans le débat qui a précédé notre référendum de 2005. On nous a présenté ce traité constitutionnel comme une évidence. On nous a dit, si vous êtes démocrate, si vous êtes pour la paix, si vous êtes pour les droits de l'homme, vous devez voter ce traité et vous n'avez aucune autre voie possible. Et on nous l'a tellement dit, de manière tellement évidente, enfin en présentant ce traité comme une telle évidence...
Une forme de pensée unique.
Voilà, que ceci a beaucoup contribué à l'effet contraire. Et au demeurant, parler de la Suède, même chose, quand on a proposé aux Suédois d'entrer dans l'euro, ils n'ont pas voulu. Mais la pensée unique dominante des technostructures et des gens qui savent était infiniment favorable à cela. Donc, je reviens à nous et à l'euro. On ne peut pas considérer que cette monnaie soit établie pour l'éternité. Vous savez, l'euro, c'est un parapluie qui permet aux États, en rapprochant leurs structures économiques, de bénéficier de la puissance économique du tout. Mais si l'on est trop divergent par rapport au chemin moyen, et si un jour on fait diverger la zone elle-même, sachant que le point de passage est quelque chose d'immatériel, de difficile à chiffrer, que c'est une question de psychologie et de psychologie des marchés, en effet, il peut se passer, ce n'est pas du tout à exclure, une crise de change à l'échelle de l'ensemble de la zone euro. Ma très grande frustration qui m'a conduit en 2005 à voter non au référendum sur l'Europe, elle vient de là. C'est le fait que l'on nous présentait comme une évidence quelque chose qui demeurait déséquilibré dans le système de décision, dans la conception de l'Europe, entre le noyau qui s'est doté d'une monnaie unique et l'ensemble des autres États, maintenant 27, qui vivent à des rythmes différents et dans des structures très variables.
C'est ce que vous écrivez. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas la croyance fédéraliste chevillée au corps. Donc, je vois l'Europe sous forme d'une organisation interétatique formée de plusieurs cercles. Donc, on voit bien une Europe à plusieurs vitesses, d'une certaine façon. C'est ce que vous dites carrément. Et vous parlez de la revanche des opinions pour ce fameux référendum du 29 mai 2005. Est-ce à dire que si Nicolas Sarkozy fait passer le traité constitutionnel sous une autre forme, pourquoi pas, alors sous une forme référendaire, mais qu'il repasse le plat, si je puis dire, vous en mangerez ?
Si c'est bien un dispositif opérationnel, donc une amélioration du système de décision, je n'ai rien contre. Ça permettra de mieux faire vivre les procédures de l'Europe sans traiter les questions de fond. Mais bon, je ne vais pas refuser quelque chose qui est un progrès opérationnel. J'imagine qu'il s'agirait, meilleure solution possible, d'un texte relativement restreint. Pas de préambule. Moi, je suis plutôt contre les préambules. Parce que sur les idées générales, dans ce pays, on s'est tellement étripé dans les différentes phases de notre histoire. Franchement, ce n'est pas la peine de recommencer.
Les racines chrétiennes de l'Europe,
voilà.
Par
bon,
exemple.
Alors, est-ce qu'on les met, est-ce qu'on ne les met pas? Je suis choqué qu'on ne les mette pas, mais si on les met, ça ouvre beaucoup de problèmes. Donc, mieux vaut éviter le préambule, n'est-ce pas? Et mieux vaut éviter d'aller au-delà des améliorations du système de décision. Alors, il reste une chose qui, paraît-il, serait encore dedans, qui pour moi est très contestable, parce qu'elle sera inefficace. C'est un ministre des Affaires étrangères de l'Union. Un ministre des Affaires étrangères de l'Union, pour moi, c'est quelqu'un qui va raconter de l'eau tiède, parce qu'il ne pourra s'exprimer que sur les sujets sur lesquels tout le monde sera d'accord. Donc, les sujets bien pensants ou complètement accessoires. Et puis, pour le reste, tout le monde continuera comme avant, parce qu'aucun État ne va renoncer à ses intérêts nationaux.
Pas de diplomatie, pas d'Europe de la défense non plus, puisque les nouveaux entrants ont déjà pactisé avec l'OTAN, et de toute façon...
On les comprend.
Font confiance
quand
à l'Amérique.
Quand on est en Pologne, avec une si longue frontière, avec l'Ukraine et la Biélorussie, bon, qui sont des États assez transparents sur le plan de la défense, on comprend que la préoccupation, ça soit d'être protégé, que le meilleur protecteur, le meilleur parapluie, c'est le parapluie américain. On serait à leur place avec les leçons de l'histoire et la façon dont les démocraties occidentales les ont lâchées en 1939, eh bien, on ferait exactement la même chose.
On s'assure au meilleur, au meilleur protecteur.
Évidemment.
Quelle leçon tirez-vous du feuilleton EADS ?
Eh bien, que l'industrie n'est pas la gestion intergouvernementale, et qu'on ne crée pas de façon artificielle une entreprise, et qu'il n'y a pas d'entreprise industrielle qui marche sans un vrai actionnariat stratégique prêt à prendre les risques de l'aventure de l'entreprise. Alors, on a apporté Aérospatiale, entreprise publique, dans la corbeille. On l'a apporté au groupe Lagardère. Le groupe Lagardère s'est affirmé parce que l'État l'a bien voulu l'État au demeurant de la période 97-2002. Hein, c'est Lionel Jospin et M. Strauss-Kahn qui ont signé les accords. Je ne dis pas que d'autres ne l'auraient pas fait, mais enfin, c'est eux qui l'ont fait. Et donc, l'État ayant apporté l'actif qui avait en réalité le plus de valeur a accepté de passer derrière l'industriel ou réputé tel du secteur. Et ensuite, on a été trouver les Allemands, on a assuré une stricte parité des valeurs et du pouvoir de décision d'entreprise, et EADS est ainsi né. Et puis ensuite, on s'est livré à une véritable proporce dans la répartition de tous les postes au sein des grandes filiales, Eurocopter, Airbus, etc. Je dis proporce parce que moi, ça me fait penser à la manière dont les Autrichiens répartissaient les postes à un prêt pesé au trébuchet entre les populistes et les sociodémocrates à la sortie du traité d'État de 1955. C'est un petit peu de même nature, mais on ne gère pas une entreprise comme ça. Bon. Et un beau jour, la réalité s'est vengée. Elle s'est vengée de deux façons. D'abord, le groupe Lagardère a changé de dirigeant, le fils a succédé au père, et le fils a probablement une vision différente des enjeux stratégiques. Donc, un actionnaire industriel de référence en France qui souhaite sortir, qui allège de moitié sa position et qui dit que le reste sera à vendre bientôt. Un État qui ne sait plus très bien sur quel pied danser. Bon, finalement, l'État fournit le nouveau président des EADS, puisque Louis Gallois vient du secteur public et qu'en réalité, c'est un homme de l'État et non pas un homme de Lagardère, tout en étant acceptable par Lagardère. Et puis, on se retrouve avec, du côté allemand, la même incertitude de l'actionnariat. Et enfin, avec un programme, le A380, qui nécessite de mettre en synergie tous les établissements, et ça ne se passe pas bien pour des raisons techniques, pour des raisons que des ingénieurs expliqueraient beaucoup mieux que moi. Aujourd'hui, cette entreprise qui conserve un plan de charge important a un vrai problème d'actionnariat et d'organisation industrielle. Et il est clair que cette entreprise doit s'intégrer et que si elle n'y parvient pas, elle sera cassée en morceaux, chacun essayant de trouver sa place sur le marché, ce qui serait naturellement une perte de valeur et d'énergie absolument considérable. Mais il faut trouver la logique d'actionnariat qui permettra à cette entreprise d'assumer sa stratégie sur le moyen terme. Et là aussi, le temps passe très, très, très vite.
Sans extrapoler Philippe Marini, est-ce que des EADS, est-ce qu'une construction comme celle-ci, une forme d'usine à gaz, est-ce que ce n'est pas le décalque de ce que l'Europe fait un peu dans tous les domaines, c'est-à-dire une forme de compromis systématique entre tous ses membres ?
Le compromis est utile et nécessaire quand on sait le dépasser. S'il dure trop longtemps, s'il est incompatible avec le temps industriel ou le temps économique, il faut l'abandonner, il faut passer à autre chose. Mais le compromis, bon, personne ne pourra dire que dans un ensemble interétatique ou lorsqu'il s'agit de négocier entre plusieurs forces économiques de pays différents, il ne faut pas compromettre. Il faut compromettre. La vie n'est faite que de compromis. Mais le compromis n'est pas un but en soi. Il ne faut pas qu'il soit sacralisé, il faut savoir le dépasser.
Alors d'autres aspects, si vous le voulez bien, pour conclure cet entretien, à la fois sur l'actualité, puis c'est les grands enjeux, bien sûr, que vous abordez ici même. Hein, le choc des civilisations, par exemple, mais on ne va peut-être pas tout évoquer. Je reviens sur cet aspect, l'identité, parce que vous voudriez quand même en dire un mot. Crise de l'identité, est-ce que, au fond, toute notre situation ne se résume pas à cette interrogation ? Nicolas Sarkozy, qui préface votre ouvrage, a évoqué l'idée d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Bon. Pourquoi pas ? Est-ce une bonne idée ?
Notre population se diversifie sans cesse. Les enfants, les petits-enfants de ceux qui sont arrivés sur notre sol ont vocation et ont même droit à l'intégration. L'intégration suppose, à mon sens, une condition de base. On intègre dans quelque chose. On n'intègre pas dans une abstraction. On intègre dans un corps charnel et vivant qui s'appelle une nation. Et l'identité de ce corps, c'est bien ce qui va faciliter l'intégration. Et pour que le corps soit apte à intégrer, il faut que l'on en soit fier. Il ne faut donc pas que l'on se repente à chaque instant sur tel ou telle de ces parties qui ne serait pas suffisamment belle, suffisamment attrayante, suffisamment montrable. C'est, je crois, ce raisonnement qui est à la base de la proposition de Nicolas Sarkozy. Pour que ce pays soit accueillant, il faut que ces valeurs soient admises, les valeurs forgées par les siècles. Donc, on parle des valeurs de la République, oui, mais pas seulement les valeurs de la République. Les valeurs immémoriales qui se sont sédimentées et ont créé la France et l'esprit français. Le génie français, comme on peut le dire. Génie français.
Dont les murs de l'Académie sont évidemment des témoins.
L'une des plus belles expressions, et les témoins. Le génie français. Donc, c'est le génie qui va être la force d'intégration. Si ce génie est contesté, méprisé, nié, comment peut-il être un facteur d'intégration ? Donc finalement, la problématique qui est là, elle ressemble beaucoup à celle d'une nation beaucoup plus neuve que nous, la nation américaine, qui est la plus hétérogène que l'on puisse imaginer de par les apports successifs qui s'y intègrent. Mais cette intégration est efficace parce qu'il existe cette fierté, éventuellement avec tous ses excès. Avec tous ces excès. Mais est-ce qu'on imagine, est-ce qu'il existe dans le monde une nation plus intégratrice que celle-ci ? Alors nous, bien sûr, nous sommes plus complexes, nous raisonnons mieux, nous avons une expérience infiniment plus subtile, mais l'intégration, elle continue d'obéir au même ressort.
Sans contester le fond même de votre propos sur l'identité, est-ce que cela ne passe pas d'abord par l'école et le ministère en question de l'identité, est-ce que cela n'indique pas l'idée suivante qu'il faut réformer l'école et qu'il faut s'attaquer à l'éducation nationale avant de créer un ministère supplémentaire ?
La réponse est oui. Bon, moi, si j'adhère, comme vous le voyez, au raisonnement, bon, un ministère, faut-il un ministère ? Bon, c'est une façon de présenter les choses, c'est une façon de les
un axe directeur.
Si vous voulez, c'est un axe directeur. Bon, il ne faut pas sacraliser le ministère, surtout quand on veut en réduire le nombre. Bon, mais ce qui, à mon avis, serait bien utile, l'éducation, en effet, c'est l'œuvre à long terme la plus délicate, la plus cruciale. Lorsque des enfants des quartiers les plus populaires de ma ville sont amenés, soit par des bénévoles, soit par les enseignants, pour découvrir le patrimoine, visiter le château de Compiègne, les vieilles rues, l'hôtel de ville, lorsqu'on les amène lire les façades du passé, ce qui est en définitive une leçon d'identité, cela les passionne beaucoup. Bon, ils ont beau être de toutes les couleurs comme il se doit, ils posent énormément de questions. Et je crois que ces actes quotidiens qui s'intègrent à une vision éducative font beaucoup pour l'intégration.
Dernier point, Philippe Marigny, avant de nous quitter. Vous insistez sur ce point d'ailleurs. Vous n'êtes pas un déclinologue comme Nicolas Bavré se présente souvent à l'opinion. Vous êtes porté par une espérance. Veillée d'armes, c'est veillée d'armes avant un combat. Ce n'est pas la France est foutue.
Bien sûr, car si l'on se bat pour ce pays, si l'on s'investit dans la vie politique, c'est parce qu'on y croit. Et tous ceux qui ont un peu étudié notre histoire savent que ce pays est passé par des alternances absolument incroyables, qu'il est tombé très bas, qu'il s'est relevé très haut. Et c'est peut-être ce qui distingue les gens qui ont une filiation gaullienne, si vous voulez, de beaucoup d'autres. Nous estimons que le génie de la France est impérissable, que c'est une donnée de base qui se renouvellera d'âge en âge et que nous ne voulons pas voir diluée dans je ne sais quelle construction administrative ou artificielle.
Merci beaucoup Philippe Marigny. Veillée d'armes, propos pour la rupture, entretien avec Sylvain Attal, c'est préfacé par Nicolas Sarkozy et cet essai est publié aux éditions Ligne de Repère dans la collection Opinion.